Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois cool, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonjour à toutes et à toutes, il est 19h02, la pendule la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info. Comme tous les jours de la semaine et plus particulièrement le jeudi avec l'équipe de jeudi, avec bien sûr Delphine.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes.
Et donc moi.
Après toutes ces années, j'arrive encore à te coincer sur ce démarrage.
Bon, donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 novembre 2017. Il a fait beau, pas trop froid, on pourrait donc qualifier cette journée de belle journée d'automne. Ce serait oublier ce qui se passe aux frontières de l'Europe. Ainsi, la journée a quand même un triste bilan, puisque au moins 110 migrants, officiellement, en tout cas ceux qui ont été retrouvés, sont morts ou disparus en Méditerranée. Aujourd'hui, vous allez me dire, c'est banal, ce jour ressemble à celui d'hier, qui ressemblait à celui d'avant, qui ressemblait encore à celui d'avant. Oui, certes, mais cela reste quand même triste. Heureusement que la gauche française, elle, nous fait rêver. Ainsi, après le démantèlement tellement beau, respectueux, humain, et surtout très médiatisé, qui a eu lieu à Calais, dans cette fameuse jungle. La gauche va devoir évacuer, en tout cas c'est ce que demande la maire de Paris, elle aussi socialiste, les 3000 migrants qui campent aux abords de la station de métro Stalingrad à Paris. Mais pour les métros, on cherche encore la France terre d'accueil que la gauche devrait défendre et malheureusement qu'elle ne défend pas, je dis bien devrait, bien évidemment, car dans les faits, le racisme et l'étroitesse d'esprit restent majoritaires chez les socialistes en cette belle journée d'automne 2016. J'ai dit 2017 tout à l'heure, mais j'étais un peu en avance. Peut-être devrions-nous chercher de l'espoir du côté d'Arnaud Montebourg, non? Tu crois pas?
Oh, à fond.
Alors, il s'est exprimé sur Notre-Dame-des-Landes. Je vais
s'exprimer beaucoup sur plein de choses, entre autres. Mais il y a
il
ça,
ferait
mais...
mieux de se taire. Écoutez-le, écoutons-le. Il a dit, s'agissant du projet Notre-Dame-des-Landes, quelles que soient les convictions initiales de chacun, et les miennes étaient très réticentes sur ce projet. Une fois que le référendum local voulu organisé par la République a eu lieu, le résultat s'impose à tous. Le projet d'aéroport doit donc désormais être mis en œuvre sans plus attendre. C'est par cette attitude de respect collectif des urnes qu'on rehaussera le sens du bien public. Ça, c'est parlé, M. Montebourg. Sauf qu'on sait tous que le référendum, le résultat a beaucoup dépendu de la taille, du nombre de personnes finalement interrogées. Si c'était très proche de Notre-Dame-des-Landes, ça passait pas. Si c'était au milieu, ça passait. Si ça s'éloignait un peu, ça passait plus. Donc, ils ont choisi le milieu pour que ça passe. Merci. Donc, il n'y a vraiment rien à sauver chez les socialistes. Bon, peut-être que la droite va arriver à nous faire rêver. Oui, non, c'est pas possible. Oui, on va plutôt nous faire cauchemarder. Écoutons d'abord Jean-Frédéric Poisson au sujet du Front National. Rappelons que M. Poisson est candidat à la primaire de la droite pour 2017 et qu'il s'est beaucoup exprimé durant le premier débat entre les candidats de la droite. Alors on lui pose la question, est-ce que le Front National est un parti d'extrême droite ? Il répond, je n'en sais trop rien, mais ce n'est pas ça qui compte. Moi je ne suis pas dans la condamnation, je ne fais pas de morale. Pour un mec qui est dans un parti chrétien, qui est en train de dire tout le temps les PD, c'est des méchants, c'est horrible, c'est péché, tout ça, c'est bizarre. Hein. Pourtant, il a la... bon, bref, hein, comme quoi, il est pas toujours honnête. Donc, il répondait, c'était lors d'une l'émission Question d'info. Après, pour continuer. Il a dit, si on assimile les idées qui seraient racistes et xénophobes à sa ligne politique, il parle toujours du Front National, alors si effectivement il les maintenait, il serait certainement d'extrême droite. Mais j'ai cru comprendre que ça avait été réglé. Ah bon, ils sont plus racistes et xénophobes, merde. Est-ce que le Front National est irrespectueux des institutions ? Question suivante, il répond, c'est pas mon sentiment. Bon, merde. Et il a estimé qu'il était plus proche de Marion Maréchal Le Pen que de Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors nous, on n'est pas très proche de NKM, mais on est encore plus loin de Marion Maréchal Le Pen. Voilà, donc bref, ça fait peur aussi. Alors les autres candidats de la droite qui sont ce soir en débat pour se battre pour la place de futur président de la République. Bon, bah, ils sont tous d'accord à peu près hein, sur la partie au moins économique, c'est-à-dire moins de services publics, moins de fonctionnaires, plus de privés, moins de contraintes, notamment environnementales, moins de syndicats de salariés, mais plus de syndicats de patrons. Et moins de syndicats de salariés, ça veut dire bien évidemment moins, voire aucune démocratie dans l'entreprise, il y en a déjà tellement peu. Système totalitaire par excellence à l'entreprise. Moins d'aide aux pauvres, bien évidemment, et moins de ponctions pour les riches. Bon, arrêtons d'aller plus loin, parce que je vais vous faire vomir, je vais me faire vomir, et ça va être difficile de faire ce qu'est Nu Info. Bon, pendant ce temps-là, le fichage généralisé des Français est publié au Journal officiel. Ça devient donc une réalité, ni la droite ni la gauche n'ont dit quoi que ce soit, puisqu'ils approuvent le fichage généralisé de la population. Finalement, encore un triste jour donc. N'y aurait-il donc point d'espoir ? Point de choses positives en ce 3 novembre 2016 ? Allez, si, quand même. Pour faire la nique à tous les racistes, à Jean-Frédéric Poisson, à ses amis du FN, on rappelle que la France est quand même une société multiculturelle. Comme vient de le rappeler le plus prestigieux des prix littéraires, puisque le Goncourt a été attribué à la franco-marocaine Leïla Slimani. Alors bon, je déteste les prix littéraires, je déteste le concours, mais là quand même, big up, comme on dit chez les reggaemans. Vous avez bien entendu, c'est une franco-marocaine, c'est-à-dire double tare quand même, hein, pour la gagnante, puisque c'est une femme. Elle est arabe, et en plus elle a la double nationalité, voilà, et bon, ça fait vraiment plaisir d'imaginer la gueule des racistes quand ils ont appris ça. Bon, ils savent pas lire, ils savent pas ce que c'est qu'un livre, ils savent pas ce que c'est que le prix Goncourt, mais quand même ça a dû leur faire mal. Bon, c'est vrai que moi j'aurais préféré que le prix aille à un autre arabe, à Majid Cherfi, qui a sorti, qu'on voit pas mal à la télé, pareil, moi je regarde pas, mais j'ai vu les échos, qui a sorti un livre qui s'appelle Ma part de Gaulois, où il raconte son enfance et son adolescence quand il va passer le bac, la révolution dans son quartier, le premier à avoir le bac. Donc voilà, son adolescence d'arabe dans sa banlieue toulousaine. Donc un livre qui a, contrairement a priori à celui de Leïla Slimani, un vrai côté politique, un vrai côté historique, mais qui est quand même drôle et touchant. Voilà, donc merci à tous ces Majid, Leïla et tous ces Français qui sont pas de souche et qui nous procurent quand même d'énormes plaisirs, d'énormes découvertes littéraires et culturelles. Merci à toutes et à toutes. Nous allons faire un petit tour de l'actualité en vous parlant de plein de choses qui ont lieu dans plein d'endroits dans le monde. On ira notamment au Liban. Voilà, on ira en Turquie, on ira au Venezuela. On parlera un petit peu de religion à travers la rubrique Ni Dieu ni Maître. On parlera de la Russie presque totalitaire. On parlera du stress au travail, des profiteurs, des révolutions technologiques qui nous desservent. Enfin voilà, tout ça, c'est le menu de ce qu'est Nu Info. Et tout de suite, partons un petit peu ailleurs.
Oui, alors pour tout vous dire, dans cette émission, on fait pas de réunion de rédac. Hein, on bosse chacun de notre côté. Et puis à un moment, il y en a un qui dit « Et toi, t'as quoi ?» Et alors parfois, c'est la cacophonie. Hein, y a rien qui concorde à aller faire un déroulé avec tout ça. Et puis quand même, souvent, on pense un peu pareil. Et moi, je me suis dit cette semaine que j'avais envie de faire le tour du monde pour vous parler des autres politiques, parce que j'avais un peu envie d'oublier les nôtres, si tu veux, de politique. Donc j'allais un peu dans ton introduction. Alors je vais pas vous parler de Monsieur Trump ou de Madame Clinton. Clinton, même si on aurait pu se rappeler que le 3 novembre 1936, Franklin Delano Roosevelt était réélu président des États-Unis, que le 3 novembre 1992, Bill Clinton était élu président des États-Unis, et que le 3 novembre 1970, suite au vote du 4 septembre 1970, Salvador Allende était nommé président du Chili par le Congrès.
Voilà. Avant d'être assassiné.
Voilà, pour les quelques dates du jour. Je ne vais pas non plus vous parler du débat de primaire de la droite sur BFM TV et iTélé. iTélé, 19e jour de grève voté cet après-midi. Non, je vais faire d'autres petits tours. Alors, pour te donner suite à ce que tu nous racontais sur le Liban, avec un nouveau président, monsieur Michel Aoun, nous avons maintenant un nouveau premier ministre. Il s'agit de Saad Hariri. Nous sommes dans le renouveau.
Ouais, c'est ça. C'est un peu comme chez nous, c'est toujours les mêmes. Alors lui, c'est un fils d'eux, hein, fils de milliardaire, fils d'homme politique. Assassiné, certes.
Certes, j'allais le dire quand même. mais enfin, Saad Hariri, il a déjà été Premier ministre de 2009 à 2011. Bon, il a fait le consensus, hein, à part le Parti Basse Libanais, le Parti National Social Syrien et le Hezbollah. Tous les autres étaient OK.
Ouais, parce que lui, il est quand même sunnite. Hein,
ouais.
Et en face de lui, il a le Hezbollah qui est chiite. Le Hezbollah avec la Syrie, qui ont assassiné son père quand même. Donc, effectivement, il a des rancœurs un petit peu. Ça ne va pas être gagné non plus, mais le Liban est composé comme ça de clans, avec chacun leur rancœur. C'est pas facile, hein, de gouverner.
Alors, d'autres rancœurs avec M. Erdogan, qui continue ses purges, hein, vous avez certainement entendu ça, et aujourd'hui, il a estimé que l'Allemagne était devenue un repère pour les terroristes, hein, je le cite, excusez-moi, et que l'Allemagne sera jugée par l'histoire pour sa contribution au terrorisme, hein, il mâche pas ses mots. Hein.
Lui qui a quand même soutenu l'État islamique, directement et beaucoup indirectement, en achetant du pétrole, etc., en laissant la frontière ouverte, etc., il ose dire ça de l'Allemagne, parce que l'Allemagne elle envoie des terroristes allemands maintenant en Turquie, c'est ça ?
Alors, en fait, c'est parce que M. Erdogan et son équipe, si je peux me permettre, a demandé un certain nombre d'informations sur 4000 dossiers pour des demandes d'extradition, en fait. A priori, le côté allemand, ça répond pas bien. Donc, du coup, il est un peu fâché, et donc il estime que c'est une base arrière en Allemagne.
Alors, lui, il vise ses opposants politiques proche de Fatullah Gulen, c'est ça ?
Exactement, c'est exactement ça. Il accuse aussi l'Allemagne d'abriter les militants du PKK.
Ah ben oui.
Et oui. Donc voilà, Monsieur Erdogan nous a fait une très belle sortie avec l'image et les gestes. C'était quand même assez merveilleux, il faut le dire.
Il s'est fait quand même tacler aujourd'hui par le chef de l'État islamique, qui n'est plus maintenant son ami, hein, puisqu'on sait qu'il a changé de camp, M. Erdogan, puisque M. Baghdadi, si ma mémoire est bonne, là, a dit qu'il fallait attaquer la Turquie, grosso modo.
C'est ça.
Voilà. C'est sympa quand même, ce coin du monde.
Et alors, on va attaquer maintenant un peu plus, comment dirais-je, du croustillant, de l'amusant. Nous allons partir au Venezuela. Donc, vous savez qu'au Venezuela, c'est un peu la crise, hein, quand même.
C'est un énorme bordel, tu veux dire.
Oui, c'est ça, mais je tenais à employer un mot plus sérieux, si tu veux, pour parler de politique étrangère. Monsieur Maduro est donc engagé dans un bras de fer avec le camp adverse. On veut le mettre dehors, hein, pour faire simple. Vous avez un petit peu suivi cette actualité, mais Monsieur Maduro ne se laisse pas démonter, puisque mardi, il a animé une nouvelle émission quotidienne de radio et de télévision, vous savez maintenant tout est lié, qui s'appelle La Hora de la Salsa, c'est-à-dire l'heure de la salsa. Alors c'est musique et information politique, et donc il a animé ça, hein, vous imaginez. Vous allez me dire, Monsieur François Hollande va aussi parler des fois football sur France Inter, donc pourquoi pas animer une émission de salsa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette émission est diffusée sur Radio Miraflores. C'est une station qui a été créée par les autorités du Venezuela pour combattre les campagnes de communication des médias nationaux et internationaux contre le président Maduro. Petit parti pris.
Voilà. Non, mais il faut dire qu'en phase 2, ils ont l'essentiel des médias non publics sont détenus par du privé, comme chez nous, comme partout dans le système capitaliste. Mais ils se sont tous des réactionnaires. Hein, il y a pas de privé vraiment de gauche là-bas. Donc, du coup, effectivement, il y a une contre-révolution qui a lieu au Venezuela, qui est soutenue par ces médias de droite. Et effectivement, l'État, qui doit être de gauche, alors Maduro de gauche, je sais pas s'il est de gauche, mais en tout cas, il est très mauvais. Très, très mauvais chef de l'État. Il utilise finalement ce que font les autres. Il crée une chaîne de télé, de radio pour s'exprimer.
Alors bon, il a quand même expliqué, M. Maduro, qu'il ne pourrait pas assurer l'animation de cette émission.
Tout le temps.
Chaque mardi, quand même, il a un poste un petit peu à responsabilité. Alors pendant ce temps, quand même, il faut savoir que il y avait des discussions dans l'opposition et il y a un dialogue qui a été engagé dimanche entre les différentes parties. Finalement, à l'unanimité, les élus ont décidé de suspendre la procédure pour l'éjecter et puis d'annuler une marche qui était prévue aujourd'hui vers le palais présidentiel. Alors, toutes ces négociations, elles sont accompagnées du Vatican, qui est le médiateur entre le gouvernement et l'opposition.
Ce qui est quand même surprenant, parce qu'il est allé rencontrer le pape, alors qu'il est issu de la gauche révolutionnaire, enfin même si c'est un peu loin pour lui, qui est une gauche anticléricale normalement. Hein.
Alors, bon, tout ça révèle aussi que cette unité dans l'opposition qu'il y avait pu y avoir, elle est en train de se fracturer déjà depuis quelques temps. Là, il y a eu des gens qui ne voulaient pas du tout annuler cette manifestation, donc c'est un peu le bazar aussi dans l'opposition. Monsieur Maduro profite de tout ce bazar, en tout cas lui, il profite surtout pour danser avec sa femme et amuser le pays, c'est un petit peu comme ça qu'il va résoudre la crise, hein, je sais pas. Bon, je me suis demandé.
Voilà, peut-être que ça va inspirer Hollande. Hollande va faire tango et politique.
Ça peut être drôle. Là, je ferme les yeux, j'imagine la chaîne, la chose, excusez-moi.
Ou alors Sarkozy
là.
Qui ferait... c'est quoi, il y a quoi d'autre danse en France La valse. Alors ouais, il ne faut pas qu'il danse avec sa femme, parce qu'il voit, alors il va falloir qu'il monte sur une chaise. Quoi, mais,
ça, c'était méchant.
C'est une
on
ne s'attaque
pas au physique des gens.
Bah, oui, mais pour danser, il faut...
Alors, je vais poursuivre si tu veux bien. Nous allons partir en Corée du Sud, où se passe le Shoguet.
Le quoi, t'as dit
Le Shoguet.
C'est
oui.
Quoi le Shoguet?
Eh bien, c'est Madame Choi.
Ah oui, c'est la présidente presque dictateur.
Ah non, c'est pas ça. C'est Madame Park, la présidente sud-coréenne. Elle a limogé mercredi son premier ministre, le ministre des Finances et celui de la Sécurité publique. Ont eu le même sort. Il y a donc eu derrière une désignation d'un nouveau Premier ministre qui est censé amener une nouvelle neutralité, parce que le pays est en pleine crise. On ne se rend pas compte ici. Mais c'est là aussi le bazar. Ça va être le mot de la soirée. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, il y a des révélations sur les rapports entre cette Madame Choi, dont je vais vous reparler, et la présidente. Ça a été révélé par la chaîne de télévision JTBC. Et l'affaire a mis en évidence les liens entre ces deux femmes, Madame Choi Soon-il étant une femme d'affaires qui revendique des pouvoirs chamaniques.
Ah bah voilà.
Je vais y revenir.
Ça va être sympa.
Alors d'après toute cette affaire, ce qu'on en sait, c'est que Madame Choi a récupéré des documents confidentiels sur la politique nationale, hein, sur les affaires étrangères, des affaires de défense, des dossiers que Madame Park, la présidente, lui a transmis pour analyse et conseil. Il y a une enquête qui est levée. Il y a déjà un proche de Madame Park qui a été interpellé. Elle-même, pour l'instant, n'est encore pas inquiétée. Mais certains et certaines se demandent. Samedi, il y a eu des grosses manifestations dans le pays contre Madame Park et contre le parti de Madame Park. Alors pour l'instant, les enquêteurs s'intéressent à Madame Choi. Elle est accusée d'avoir incité des conglomérats à donner des fonds à des fondations qu'elle dirige en usant de son amitié avec Madame Park. Donc là, l'idée, c'est de savoir qui a profité de quoi et où est allé l'argent. Madame Choi a d'abord été placée lundi soir en détention provisoire. Il faut savoir qu'elle revenait d'Allemagne où elle s'était cachée. Elle avait trop peur, disait-elle. Et puis, mercredi, elle est retournée menottée pour une troisième journée d'interrogatoire. Les bureaux de la présidente ont été perquisitionnés durant le week-end. C'est pas une mince affaire hein, quand même, hein, je vous le dis. Hein. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas de procédure de destitution hein, de la part de l'opposition. On n'en est pas là. Mais il faut savoir que la cote de Madame Park, elle est à peu près au niveau de celle de Monsieur Hollande. Hein, ouais. Vous voyez, c'est pas mieux. Ça
sauf
fait que
elle est de l'autre côté politique.
Oui, tout à fait. Bon, bah, bien poussé, hein, bien poussé
très,
de l'autre côté à droite.
Elle est très à droite.
Alors, donc je vous racontais cette belle amitié entre Madame Park et Madame Choi. Alors, il faut savoir que Madame Park s'est retrouvée en position de première dame. Pourquoi? Parce que c'est son père, hein, le président dictateur Park Chung-hee, qui l'a nommée première dame après le décès de sa mère qui a été assassinée. Là-dessus, sa position lui permet de rencontrer un homme, Choi Tae-min, qui est un gourou qui a créé une secte qui s'appelle l'Église de la vie éternelle. Et cet homme est riche là-dessus, il va devenir encore plus riche grâce à ses liens avec Papa Park, lien qu'il va conserver avec Madame Park, et Madame Park va rencontrer la fille de Monsieur Choi, vous suivez l'idée, et va conserver les liens avec Madame Choi une fois que le Papa Choi est mort, parce que Madame Choi...
Elle a hérité des pouvoirs.
Elle a hérité des pouvoirs, effectivement, elle est la cinquième fille de Monsieur Choi, et Monsieur Choi a déclaré un jour qu'il lui avait transmis qu'elle-même avait le don, en fait, des esprits.
Mais alors, du coup, c'est facile pour elle, parce qu'avec ses pouvoirs, elle sait quand elle va être arrêtée, donc elle peut se barrer avant, tout ça.
Alors, elle a prévu que la Corée du Sud s'effondre en 2017. Ah. Il semblerait que ce qui est... Enfin, on en rigole, mais elle l'a conseillé sur des dossiers sensibles, comme la Corée du Nord. Imaginez qu'aujourd'hui, la stratégie de Madame Park sur la Corée du Nord dépend d'une femme qui parle aux esprits.
Oh, tu sais, rappelle-toi, François Mitterrand, tu sais, il était président de la France,
oui,
il consultait une autre escroc, hein, des arts divinatoires qui n'existent pas, et qui ne sont pas des arts, c'était Elisabeth Tessier, donc voilà, et les grands de ce monde, les dirigeants sont quelquefois irrationnels, faibles, bêtes, inintelligents, et ont besoin de se rassurer en questionnant des gourous ou des...
Enfin, on pense quand même, à côté de ça, qu'elle a quand même traficoté pour la première élection de Madame Park en 97, pour une élection de député, et puis qu'elle est certainement intervenue très fortement lors de la campagne pour l'investiture conservatrice pour les présidentielles de 2007. Voilà, donc depuis 2013, Madame Park est à la présidence, elle aurait fait parvenir tout un tas de comptes rendus, évidemment, secret défense. Et puis... Un autre truc, pardon, je reviens sur un petit peu le côté plus drôle. D'après les médias coréens, Madame Choi aurait formé un groupe, les 8 fées, qui réunirait donc 8 femmes qui ont un accès exclusif à la présidente. Ah, tu peux sourire. Moi, ça me fait quand même un petit peu flipper ce genre de relation. Ce qu'on sait aussi, c'est que Madame Park et Madame Choi sont tellement proches que Madame Choi a réussi à placer des proches dans les ministères et que c'est comme ça aussi que ça a été nettoyé. Donc ça gueule un peu, je pense, a priori, du parti. Madame Choi aurait apparemment aussi profité d'un certain nombre de contacts pour permettre à ses filles de rentrer dans de belles universités. Pour sa fille, excusez-moi, parce qu'elle n'en a qu'une. Voilà, donc c'est une femme qui a une forte influence au niveau de la finance, qui est un gourou d'une secte qui est très suivie, hein, en Corée du Sud. Malheureusement, les églises et les sectes sont extrêmement présentes et d'une manière intensive,
hein, on a l'impression que c'est un pays,
la vie des gens.
Ouais, on a l'impression que c'est un pays scientifique et rationnel avec Samsung, toute l'image que ça donne à l'extérieur. Mais en fait, dans les faits, c'est un pays très irrationnel. La religion est très implanté un peu partout, qui croient à des choses complètement
incroyables. Oui,
puis
incroyables. Les choses se mélangent entre le christianisme, le bouddhisme.
Bon. Oui, ça donne des mélanges un peu bizarres. Hein.
Oui, c'est sociologiquement intéressant. Donc je vous parlais de ces deux fameuses fondations, la MIR et la SPORCA, créées en 2015 et 2016, officiellement pour promouvoir la culture et le sport. Et ben, c'est ces deux fondations qui sont aujourd'hui visées par une enquête. La question est de savoir quelle est la place donc, de ces chobols, hein, ces conglomérats dont je vous parlais, dans tous ces financements et comment tout ça a touché Madame Park, c'est-à-dire finalement c'est quoi aussi les pots de vin dans toute cette affaire, et puis Madame Choi a certainement détourné de l'argent de ses fondations. C'est un coup dur pour Madame Park, ça met le pays dans une crise absolument terrible. Nous à côté avec nos histoires de bouquins de Monsieur Hollande, je veux dire, on rigole parce que c'est du menu fretin. Quand Madame Choi est arrivée dimanche à l'aéroport, elle avait un grand chapeau noir et elle a déclaré j'ai commis un péché qui mérite la mort. Madame Park s'est excusée à la télévision la semaine dernière. On est quand même dans un pays où aussi l'excuse est fondamentale dans le rapport à l'autre, même si tout ça c'est hypocrite. Demain, la présidente doit prendre la parole. Ce sera son deuxième discours depuis le début du scandale. Je pense que la crise, elle en a encore... Pour un petit moment, il faut savoir que si elle était destituée, il y a des élections qui sont organisées sous 60 jours, donc tout ça peut aller très très vite. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. C'est quand même un pays aussi qui, si on parle pas de corruption, a quand même aussi peu de transparence dans bien des choses coincées entre la politique, la finance et l'économie, quoi. Et puis, je vais terminer, tu sais quoi, sur un truc qui va pouvoir te permettre
d'enchaîner.
De parler de religion et de ni Dieu ni maître. Je vais parler de Philippines. vous connaissez.
Ah oui,
ils ont un super président. Rodrigo.
Le mec qui assassine des gens et qui assume, je suis un tueur.
Ouais, puis qui traite tout le monde de fils de pute, hein, ouais. Du pape à monsieur Obama. C'est pas ma faute, hein, je répète les propos du monsieur. Alors, ce brave monsieur président philippin s'est engagé à ne plus proférer d'insultes. Il a affirmé que Dieu lui était apparu dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre lors d'un vol entre le Japon et Davao aux Philippines. Alors, lorsque tout le monde dormait, a-t-il expliqué, une voix est arrivée dans son conduit auditif, lui demandant de changer sa conduite. Donc, il a promis à Dieu qu'il n'utiliserait plus d'argot, d'insultes, et tout ça, a-t-il expliqué. Une promesse à Dieu est une promesse au peuple philippin, a-t-il ajouté. On va voir.
C'est pas gagné quand même. Hein. Ces dirigeants dans le monde, ils font peur un peu. Hein.
Un petit peu.
Alors on va revenir. On va commencer par une info de chez nous. Dans cette rubrique ni Dieu ni maître autour des choses en lien avec les religions, les obscurantismes et les pensées irrationnelles, les croyances irrationnelles. Enfin, les croyances tout court, c'est irrationnel par définition de croyance. On va commencer par Boutin. Vous savez, Madame Boutin. Je ne sais pas si le terme de Madame lui sied bien.
C'est un terme de politesse.
Oui, mais je crois que j'ai pas envie d'être poli, c'est en fait c'est pour ça.
Donc en décembre, ça met quand même une distance entre toi et Madame Boutin.
Ça, pour le dire, pour le coup, il y a une vraie distance. En 2015, c'était en décembre, elle était condamnée à 5000 euros d'amende pour homophobie. Elle comparaissait devant les tribunaux à cette époque-là pour avoir déclaré à un magazine en 2014, je cite, l'homosexualité est une abomination. Alors je vais dire la fin parce que c'est important aussi, mais pas la personne, le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. Hein? Voilà. Donc c'est une abomination, c'est mal, mais si jamais l'homosexuel se repent, si il est protégé, tout va bien. Voilà. En gros c'est ça. Bon, elle a quand même dit que c'était une abomination.
À l'époque, il était recommandé de se fouetter pour évacuer ses péchés. Non, mais tu rigoles, c'est vrai, hein, c'était une autre époque.
Oui. Alors, ce mercredi 2 novembre, donc hier, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette peine. Donc, Christine Boutin, et cela nous fait énormément plaisir, il faut quand même le dire, devra payer 5000 euros d'amende plus 5000 euros de frais, dommages et intérêts à chacune des trois associations qui se sont portées partie civile. Donc, victoire pour les progressistes que nous sommes. Mais ça nous rappelle que c'est écrit dans la Bible, parce qu'en fait, les paroles qu'elle dit sont tirées de la Bible, que effectivement, dans la Bible, l'homosexualité est considérée comme une abomination. Donc, finalement, Christine Boutin est confirmée pour avoir cité est condamnée en appel pour avoir cité la Bible. Alors, même si nous, ça nous fait plaisir, ça a fait réagir certains chrétiens, alors bien évidemment, pas les plus ouverts, hein, notamment certains littéralistes qui appliquent la Bible à la lettre, comme on dit. C'est le cas, par exemple, d'un site qui s'appelle Info Chrétienne, et je vais citer ce qu'ils ont écrit aujourd'hui, qui est assez abominable aussi, je cite, « Est-ce que les prédicateurs chrétiens, prêtres ou pasteurs, ou les chrétiens eux-mêmes, crieront des choses similaires donc à ce qu'a dit Madame Boutin et ce qui est écrit dans la Bible dans leur bulletin, ou qui diront des choses similaires seront également condamnés ? Point d'interrogation. Moi j'ai envie de dire oui, ça nous ferait plaisir. Et il continue, Info Chrétienne l'affirme à ce jour dans ses colonnes, oui, l'homosexualité est une abomination, mais pas la personne, le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. Donc ils reprennent la phrase, ils assument, ils vont jusqu'au bout, parce que c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Voilà ce qu'il faut entendre. Ben non, je suis désolé, la Bible reste un tissu d'horreur, un tissu de haine aussi, alors surtout dans l'Ancien Testament pour le coup. C'est aussi un énorme outil de limitation des libertés, comme tout texte religieux. Et non, l'homosexualité n'est pas une abomination ni un péché, c'est un phénomène, je vous le rappelle, scientifiquement démontré, qui est tout à fait naturel, qui concerne d'ailleurs aussi bien les êtres humains que de nombreuses espèces animales et de nombreux mammifères, puisque de plus en plus de cas d'homosexualité dans le règne animal ont été montrés et démontrés. Donc voilà, c'est difficile de penser qu'un scarabée ou je ne sais pas quel animal aurait un comportement homosexuel commettrait un péché, parce que c'est un peu difficile pour le scarabée de comprendre la notion de péché ou de pas péché. Donc voilà, c'est quand même abominable d'entendre ça en 2016. On va aller du côté du Maroc où deux jeunes filles, Sana et Adjar, qui ont 16 et 17 ans, ont été arrêtées jeudi dernier par la police de Marrakech. Emprisonnées après 48 heures de garde à vue, elles vont être jugées demain. Elles sont jugées pour homosexualité puisque elles ont été surprises et photographiées en train de s'embrasser et que deux filles qui s'embrassent sur la bouche, c'est mal. Donc c'est bien sûr en référence à l'article 489 du code pénal marocain qui criminalise, je cite, les actes licencieux contre nature avec un individu du même sexe. Ça rappelle que une partie des lois en vigueur au Maroc sont issues des textes religieux, là donc du Coran pour ce qu'il en est, et que c'est bien issu de cette tradition réactionnaire religieuse que l'homosexualité est combattue et condamnée, c'est en ce nom-là. Donc 35 millions d'habitants quand même au Maroc qui sont en permanence tiraillés par le conservatisme religieux et l'ouverture vers l'Occident. On l'a vu, hein, les islamistes ont gagné les dernières élections. Et c'est pas la première fois qu'il y a des controverses ou des choses autour des homosexuels qui sont des fois condamnés, des fois pas condamnés. Le Maroc est vraiment, comme on dit, le cul entre deux chaises. Ça serait bien qu'à un moment il bascule du côté du respect des droits humains. Mais c'est quand même pas gagné. On souhaite bien du courage à ces deux demoiselles, Sana et Adjar, qui auront la réponse peut-être demain. Alors on va aller en Irak sur un truc un peu drôle ou triste. Ça se passe à 100 km de Mossoul. Des chrétiens ont lancé une action qui s'appelle « Senteurs de prière et de louange ». C'est beau. Alors c'est l'association qui s'appelle Burn 24-7, ça doit être 24-7 en lien avec un texte religieux de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Donc cette équipe de Burn 24-7 s'est installée au Kurdistan, dans le but d'encourager l'adoration, la louange et la prière parmi les chrétiens. Alors, je cite ce qu'ils ont dit, vous allez voir que c'est quand même quelque chose. C'est une chose de prier pour la protection face à l'État islamique, c'en est une autre de le faire à 80 km de la ville de Mossoul où des personnes et des chrétiens ont tout perdu. Donc, ils sont allés le plus près possible sans qu'ils aient trop peur, donc à 80 km de Mossoul, pour lancer leur manière de résister, c'est-à-dire de faire des heures de prière. Bon, pendant ce temps-là, les Kurdes, ils se battent. Avec leurs armes, avec leur cœur, avec leur corps, contre l'État islamique. Je suis pas sûr que la prière soit très utile, alors que les combattants kurdes et autres ont, à mon avis, plus d'efficacité contre l'État islamique. Chacun sa manière de se battre. Il y en a qui sont ridicules et il y en a qui risquent leur vie. On va aller à Madrid maintenant dans cette rubrique ni deux ni maître et on va parler des femmes, puisque c'est arrivé le 13 juin 2014 à 9h30 du matin, deux femmes. Donc militantes féministes, sont rentrées, comme d'habitude, torse nu, dans la cathédrale de Almudena, la cathédrale de Madrid, et pendant une dizaine de minutes, elles ont hurlé des slogans pro-avortement. C'est, on rappelle, une grosse campagne en Espagne depuis plusieurs années pour remettre en cause le droit à l'avortement, qui n'est pas hyper développé non plus, mais qui existe en Espagne. Et c'est contre cette remise en cause qu'elles avaient fait cet appel. On rappelle que la remise en cause du droit à l'avortement est essentiellement portée par l'Église, avec en porte-parole l'Opus Dei, bien évidemment. Et leurs anciens amis franquistes, qui sont toujours là, l'Église chrétienne espagnole a toujours soutenu et continue de soutenir l'extrême droite et le franquisme, et l'Opus Dei, donc, en est un des fers de lance. Donc, à l'époque, ils avaient appelé les flics, la police était venue arrêter ces deux femmes, et on n'avait plus aucune nouvelle depuis. On s'était dit, c'est cool, en fait, ils ont laissé tomber, elles ont fait de la provoque 10 minutes en disant oui à l'avortement, en gueulant leur slogan, et puis voilà, il n'y aura pas de poursuite. Et la mauvaise nouvelle est tombée, puisque un juge d'instruction de Madrid vient de donner suite à la requête du procureur de Madrid, et ce qui est porté par l'Association des avocats chrétiens d'Espagne. Donc on peut dire que c'est des chrétiens réactionnaires, pas du tout progressistes et anti-avortement. Donc il y aura un procès très rapidement. Alors c'est 27 mois après les faits. Je pense qu'elles ont pris une claque, hein, les deux femmes, parce qu'elles s'y attendaient plus. Elles avaient oublié leur action. Je pense qu'elles ont gardé ça au fond de leur cœur. Mais bon, voilà, elles sont poursuivies. Alors c'est pareil, c'est un article du code pénal espagnol qui est issu de l'influence religieuse. C'est comme au Maroc, c'est pas le même texte, c'est la Bible cette fois-ci, qui requiert des peines contre l'atteinte aux sentiments religieux. Voilà, il n'y a pas de peine contre l'atteinte aux sentiments non religieux en Espagne, comme en France d'ailleurs, comme dans beaucoup de pays. Mais par contre, il y a une peine contre l'atteinte aux sentiments religieux. Bon, voilà, la lutte n'est pas gagnée, hein, ni pour les féministes, ni pour les femmes, ni pour celles qui se battent contre ceux qui veulent empêcher ce droit à l'avortement d'exister. Et puis, dernière petite info, alors c'est plus marrant ce coup-ci. Ça fait 2 siècles que le tombeau de Jésus est fermé à Jérusalem, et là, ils l'ont ouvert. Ouais. Alors, si vous êtes déjà allé dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, il y a un espèce de tombeau où les gens font la queue pour descendre et voir une pierre, en fait. Et c'est un mythe, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus a jamais mis les pieds dedans, ni mort, ni vivant. Alors, c'est normal, vivant, vous allez me dire, on n'est pas enterré vivant. Mais bon, voilà, les chrétiens vénèrent ce bout de pierre. La religion reste une construction mythologique, hein. C'est pas basé sur des événements forcément réalistes. Donc là, ça a été ouvert. Et il y a des analyses. Alors, la première raison pour laquelle c'est ouvert, c'est que ça menaçait de s'effondrer. Donc c'est pour protéger l'accès aux chrétiens à ce lieu un peu particulier. Donc ils ont ouvert. Bon, ils n'ont pas trouvé les os. On ne s'attendait pas à trouver les os de Jésus, ni de quoi que ce soit. Mais il y a plein d'analyses avec bon, une batterie de scientifiques. Donc analyse infrarouge, microscopique, par résonance magnétique. Enfin, ils vont essayer de trouver des traces de quelque chose. On n'est pas sûr qu'ils trouvent les bonnes traces. On sait que chaque fois qu'il y a des études scientifiques sur des choses en lien avec l'histoire originelle des chrétiens, ça tombe toujours à l'eau. Hein. Le Saint-Suaire, c'est un faux. Enfin, tous les trucs comme ça, les reliques, c'est tous des fausses. Enfin, bon. Donc là, s'ils trouvent quelque chose, il y a peu de chances que ça soit en lien avec Jésus, qui a peut-être existé, mais tout ce qui en découle derrière, on sait qu'il a monté cette secte, hein, qui est devenue une religion, a priori. Mais voilà, tout le reste, ça ressemble pas mal à de l'invention. Mais voilà, ils ont ouvert la soi-disant tombe de Jésus. Même chez les chrétiens, tout le monde n'est pas d'accord, hein, pour accepter que ça soit vraiment ça la tombe de Jésus. Hein. Même chez eux, chez les croyants de cette secte devenue religion, ils sont pas d'accord sur cette présence de ce que ça soit le vrai tombeau. Il y en a qui le situent ailleurs, il y en a qui le situent plutôt vers en Palestine d'ailleurs. Bon bref, voilà, c'était une anecdote. Ils ont ouvert le tombeau, le soi-disant tombeau de Jésus présent à Jérusalem.
Oui, tu sais que cette semaine, les femmes du mur ont remis une manifestation, sont redescendues dans la rue, ou plus précisément, sont redescendues devant le mur. Donc, ils étaient 200 hommes et femmes. Les hommes sont souvent issus des mouvements juifs libéraux en Israël. Sont donc partis en manifestation, et ces croyantes portaient dans les bras des rouleaux de la Torah. C'est un grand sacrilège puisque pour les juifs
femmes,
orthodoxes, c'est que les hommes qui ont le droit de tenir ces rouleaux. Donc c'était un acte fort de provocation, certes, mais enfin, il faut savoir que depuis quelque temps, il y a donc deux espaces devant ce mur, un pour les hommes et un plus petit pour les femmes. Et aujourd'hui, les femmes du mur, elles demandent un espace mixte, espace qui devrait être mis en place puisque le gouvernement israélien a accordé en janvier dernier le droit pour cet espace d'exister. Simplement, il n'existe toujours pas parce que les orthodoxes se sont opposés à son installation, à son ouverture. Donc, ils redescendent devant le mur avec les rouleaux de la Torah, et les orthodoxes les ont agressés très clairement. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans leur déclaration, sur la vidéo que j'ai pu voir, ces hommes parlent de sacrilège, que ces femmes n'ont pas le droit de tenir ces rouleaux de la Torah. Et en même temps, eux-mêmes, à un moment, ces hommes orthodoxes essayent de récupérer ces rouleaux de la Torah et les arrachent. C'est-à-dire qu'ils font preuve d'un acte de violence envers ces objets sacrés, qui est absolument hallucinant.
Par contre, la violence envers les femmes, ils ont le droit.
Non. Bien évidemment que non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leurs propres propos, ils s'en fichent, eux, des femmes, si tu veux.
Oui,
c'est
d'ailleurs
pas ça.
Leur première
Mais par rapport
matin,
à leurs propres propos, ouais. De dire c'est cet objet est sacré, je trouve qu'ils en prennent pas bien soin. Les femmes du mur, elles ont l'habitude, hein, tu sais, de se faire agresser, malheureusement. Elles sont coriaces, il faut quand même le dire. Elles se battent depuis longtemps pour obtenir le droit que la religion, elle soit ouverte à tous et à toutes, autant en Israël que à l'étranger. C'est leur demande, et elles sont pas les seules en Israël à porter ce débat sur la place publique. Voilà, mais c'était une vidéo assez affligeante, je dois le dire quand même.
Alors, vous imaginez ce qu'elle souffre. Alors, ce qu'imagine une femme athée en Israël, ce qu'elle peut prendre de la part des orthodoxes, ça vous donne un petit peu une idée de l'état des pays basés sur une forte présence religieuse. Tu vas nous parler un petit peu de Russie.
Oui, la semaine dernière, je vous racontais que les bureaux avaient été vidés à ITL pour pouvoir faire de la place à des salariés de 20 minutes. Hein, je vous avais raconté ça. Bon, ben là, c'est un peu un cran au-dessus. Déjà parce que ça se passe pas à ITL, mais en Russie, comme tu viens de nous le dire. Et puis, ça concerne pas des salariés d'ITL, même si on les soutient, mais des membres d'Amnesty International. Alors, Amnesty International, Russie, votre cerveau doit normalement faire des connexions. Hier matin, des membres d'Amnesty International de Moscou arrivent au bureau. Et voilà, t'y pas que surprise, le bureau a été placé sous scellé. Fermé, il y a un petit papier devant. Un avertissement, à vrai dire, assez court, qui indique que ce bâtiment étant propriété d'une ville de la Fédération de Russie, personne n'est autorisé à rentrer sans être accompagné d'un agent municipal. Donc, voilà, tipa que l'équipe d'Amnesty International se retrouve à la rue. Des systèmes d'alarme, des verrous ont été enlevés et remplacés. Hein, tout semble avoir été coupé, il n'y a plus d'électricité. Évidemment, l'équipe d'Amnesty International à Moscou téléphone au chef, aux autorités, en demandant c'est quoi ce bazar ? Mais ils savent pas. Personne ne sait pourquoi ils n'ont plus le droit de rentrer. Alors on sait bien pourquoi. Bien évidemment, une organisation des droits humains est
toujours mal vue en Russie.
Mais officiellement, il n'y a aucune accusation contre Amnesty International Moscou. Voilà, c'est ça aussi la Russie. Hein, c'est ça. Oui, c'est toujours ça, plutôt. C'est encore ça, c'est-à-dire des organisations qui se font fermer, repousser, sans même plus maintenant une justification. Parce qu'il y a encore quelques temps, il y avait des justifications, des lois étaient créées exprès.
Voilà, ils ont créé des lois en disant quand une organisation est financée par l'étranger...
En particulier cette loi-là.
C'est le cas de toutes les organisations internationales.
Eh ben non, parce que même celles qui ne sont pas financées, qui ont réussi à devenir autonomes dans le pays, c'est-à-dire comme des grosses, hein, comme Amnesty par exemple, il y en a comme ça, elles se sont développées sur place, c'est les militants
oui,
russes.
Oui, elles n'ont pas,
voilà, pas besoin forcément de l'argent de l'étranger, sauf en cas de coup dur. Eh ben même celles-là, elles ont eu des soucis. Eh ben là, de toute façon, maintenant, il n'y a même plus de raison. Voilà, tipa, qu'ils n'ont plus de locaux.
Alors, on va parler un peu de stress au travail maintenant, puisque on apprend dans une étude scientifique que le sport serait un rempart de taille contre les effets néfastes sur la santé du stress au travail. Donc, il paraît que ça permettrait... Alors, on le sait, le sport permet de réduire notamment les risques de maladies cardiovasculaires. Et ce qu'on apprend par cette étude qui a été faite par des chercheurs de l'université de Bâle, donc c'est en Suisse, et une université de Göteborg, donc c'est en Suède. Une étude publiée par un journal qui s'appelle Medicine and Science in Sport and Exercise. Donc les scientifiques ont interrogé 200 salariés suédois âgés de 39 ans en moyenne. Ils ont fait passer des tests physiques, ils ont mesuré l'indice de masse corporelle, la pression artérielle, le taux de cholestérol, les triglycérides, et ils ont évalué les facteurs de risque cardiovasculaire. Et ensuite, ils les ont interrogés sur leur perception du stress au travail. Et ils ont trouvé une réelle corrélation. C'est-à-dire, plus les gens sont stressés au travail, plus ils ont des problèmes cardiovasculaires. Donc ça, c'est relativement nouveau, ce lien direct, même si on l'imaginait déjà. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de leur faire du sport. Alors, ils leur font faire du sport et ils se rendent compte, de manière assez scientifique, hein, que le sport est pas mal efficace, on le savait déjà, sur les maladies cardiovasculaires. Donc sur ces gens stressés à cause de leur travail, ces gens gagnent sur leur santé. Et par contre, sur des gens qui n'ont pas le stress au travail, le sport est moins efficace. Du coup, c'est assez drôle de voir que finalement le sport est plus efficace sur ceux qui sont déjà malades que sur ceux qui ne sont pas malades. Hein, bon, ça doit servir aussi à prévenir, hein, mais bon, voilà. Bah, alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a cet effet direct du travail, du stress au travail sur la santé et notamment sur les maladies cardiovasculaires. Souvent on accuse la malbouffe ou le comportement sédentaire, toutes ces choses-là qui ont un impact effectivement sur les maladies cardiovasculaires, mais assez peu le stress, la hiérarchie, la pression dans l'entreprise. Donc ça, c'est nouveau. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la solution, c'est jamais la bonne. Alors c'est le problème de la médecine en fait, et c'est un problème récurrent. C'est que la médecine, puisque là c'est quand même porté par des médecins, elle cherche une solution, elle cherche à trouver un remède au problème. Donc là, le problème, c'est les risques de maladies cardiovasculaires qui sont plus importants chez les personnes stressées. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent un remède. Le remède, c'est le sport. Effectivement, ça marche d'après leur étude. C'est dommage de pas prendre le problème du bon côté, c'est-à-dire bah finalement, il n'y a peut-être pas besoin de faire de sport si on supprime le stress. Hein. Et ça, c'est un problème de la médecine en général. On ne cherche plus à faire de la prévention, c'est-à-dire on ne cherche plus à empêcher les cancers d'arriver, les maladies cardiovasculaires d'arriver, etc. On cherche des remèdes. Et c'est dommage parce que c'est pas la bonne démarche. Alors même si les remèdes sont utiles, parce que on peut avoir des problèmes cardiovasculaires qui sont pas liés au stress au travail, qui sont liés à d'autres problématiques, notamment peut-être génétiques. Mais dans ce cadre-là, c'est une mauvaise réponse, le sport. La vraie réponse, c'est il faut changer l'entreprise pour qu'il y ait plus de stress dans l'entreprise et que les gens aient pas ce problème-là qui ensuite a un impact sur la santé. Voilà, ce serait la même chose sur les cancers. Hein. On peut réduire énormément en supprimant, en interdisant tous les produits chimiques, tous les produits cancérigènes, cancérogènes, etc. Mais bien sûr, c'est pas ce que portent les médecins qui préfèrent trouver des remèdes à ces maladies. Alors, parce que c'est une question d'habitude, hein, malheureusement, une très mauvaise habitude de la médecine, et puis aussi une habitude entretenue par l'industrie, hein, qui préfère vendre des médicaments, parce que s'il n'y a pas de maladie ou moins de maladies, ils vendent moins de médicaments, ils ne sont pas contents. Donc voilà, une étude intéressante avec une conclusion qui ne l'est pas forcément. Air France ?
Oui. Alors, on a eu cette information écho de la semaine. Air France va lancer une nouvelle compagnie. Et là, vous vous dites, mais attends, il n'y en a pas déjà plusieurs des compagnies ? Alors si, il y a Air France.
Et puis il y a Hop.
Il y a Hop et il y a Transavia.
Ah oui, ça fait trois, dis donc.
Et voilà, voilà, voilà. Alors cette nouvelle compagnie n'a pas encore de nom. Elle devrait conserver l'appellation Air France dans celui-ci. Pour l'instant, du côté d'Air France, on appelle ça le projet Boost. Oui, tu peux rire. Alors ça a été présenté aujourd'hui aux 500 managers du groupe dans le cadre du plan Trust Together. Tu peux rire encore. Ce projet fait partie des 9 axes stratégiques du nouveau PDG Jean-Marc Janaillac. Il est là depuis cet été, hein, je vous rappelle. Il a remplacé Alexandre de Juniac.
Qui était pas mal détesté.
Oui, oui. Bah, il faut dire qu'il avait eu quand même quelques casseroles, ouais. Quelques conflits sociaux. Donc Jean-Marc, lui, espère pouvoir échapper à tout ça. Alors l'idée de tout ça, c'est évidemment d'améliorer la compétitivité d'Air France, de continuer le développement. Alors...
C'est-à-dire de moins payer les salariés. C'est ça.
Écoute, tu viens vite, tu en viens vite au fait. Alors, ces derniers jours, dans la presse, on supputait que ça pouvait être une compagnie low cost. Long courrier, a priori, ça ne sera pas le cas. Effectivement, Air France KLM a besoin de se repositionner, aussi clairement, hein, toutes ces marques entre Hop, Air France et Transavia. Donc là, il s'agirait plutôt de déployer les vols sur les destinations déficitaires. Ça serait une compagnie long courrier avec des coûts inférieurs à ceux d'Air France.
C'est ça, du low cost, quoi.
Oui, alors...
avec des gens pas payés,
ce qui est
quoi.
Expliqué, c'est qu'il va y avoir une dizaine d'appareils d'ici 2020, que c'est axé sur business et loisirs, donc un peu de tout. C'est pour ça que c'est des tarifs inférieurs à Air France. Ce qu'on sait aussi, c'est que tout ça doit démarrer l'hiver 2017 sur les moyens courriers, été 2018 sur le long courrier, et ça va s'opérer avec des pilotes d'Air France qui seront détachés sur la base du volontariat, comme pour Transavia. Pour Transavia, ça serait super bien passé, hein. Souvenez-vous, on vous en a parlé, un grand moment de négociation entre une direction, un patronat et des syndicats, un grand moment de bonheur, aucune grève, que du sourire, enfin tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que du sourire de toute façon Air France. Par contre, du côté des hôtesses et des stewards, là il va y avoir du recrutement directement par la nouvelle filiale au prix du marché.
C'est-à-dire moins cher.
Voilà, ça c'est ça. Hein, le Jean-Marc,
faut le comprendre.
Le PDG qui l'explique, au prix du marché. Alors, pour quand même tenter de calmer le jeu, Jean-Marc Janaillac a insisté sur le caractère complémentaire du nouveau projet. C'est-à-dire, on ne veut pas déshabiller Air France pour habiller ce Boost.
Pourtant, c'est ce qu'ils font avec toutes leurs petites compagnies.
Oui, bah c'est ce qu'il a dit qu'il ne veut pas faire. En fait, il veut se redéployer plus largement, c'est-à-dire avoir plus de marques, plus de secteurs, et pouvoir comme ça proposer plus de vols et donc avoir plus de clients. L'idée, c'est d'avoir, d'ici 2020, 100 millions de passagers à la place de 91 millions aujourd'hui pour Air France KLM. Donc c'est forcément, comme tu le disais, une croissance qui va avoir un prix. Ça va pas se passer tout simplement. Là, je vous rappelle que ça s'est calmé. Il y a une trêve en ce moment jusqu'à février prochain. Ça veut dire que Jean-Marc, le PDG d'Air France, KLM, intéresse bouger pour arriver à avoir des négociations avant février, puisque là, il y avait d'autres négociations qui allaient se mettre en place. J'ai pas bien trouvé encore la réaction des syndicats, hein, puisque c'était tout à l'heure dans le cadre la présentation dans le cadre du plan Trust Together. J'adore dire ce titre. Mais on peut penser quand même que des négociations vont être difficiles, en particulier avec les personnels de cabine qu'on a un peu marre, hein, en fait, il faut le dire quand même. Ça fait quand même des années que maintenant tout le monde doit donner de sa personne pour aider au développement d'Air France. Certes, il y a une grosse dette, hein, mais en fait tout ça c'est de la finance. Donc voilà, c'était juste ce qu'on avait appris au niveau éco, une nouvelle marque Air France. Ça c'est chouette, hein, encore des gros avions.
Super. Bon, on va rester dans la technologie et on va reparler brièvement du compteur Linky. Alors, on va le prendre sous un autre angle, puisqu'on a appris aujourd'hui que les consommateurs pauvres, alors on dit pas pauvres, on dit sous certains minima sociaux, profiteront très bientôt d'un dispositif d'affichage gratuit et en temps réel des données de comptage des compteurs. Donc ça concerne Linky pour l'électricité et Gaspar pour le gaz. Bon, il y aura un afficheur qui affichera les consommations, quoi. On se dit, tiens, putain, avant, ça n'existait pas, là. Moi, sur mon vieux compteur, parce qu'on n'a pas, j'ai pas Linky, il y a toujours l'affichage des kilowattheures, je sais combien je consomme, hein. Il suffit que je note un jour, et le lendemain, je note, et puis je fais la différence, car je sais faire une différence. Et j'ai ma consommation. Oui, ah ben non, avec le nouveau Linky, c'est plus compliqué. Alors, il nous explique pourquoi c'est plus compliqué. Alors, d'abord, il y a un texte de loi, hein, qui a été écrit pour expliquer, puisque ça date du mois d'août, le texte de loi, même si l'info est arrivée aujourd'hui jusqu'à Radio Canu. Donc le gouvernement a ébauché donc ce projet, un projet d'arrêté, très exactement, c'est pas une loi, décrivant les données affichées sur les boîtiers déportés, installés gratuitement pour les pauvres, et destinées, entre guillemets, à faciliter la maîtrise de la consommation d'énergie. Donc on afficherait la puissance instantanée actualisée toutes les 5 secondes. C'est important d'être toutes les 5 secondes. Hein. Voilà, la puissance moyenne, la puissance maximale. La consommation exprimée en euros par mégawattheure. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire comme une consommation, c'est en kilowattheure. Mais bon, bref, c'est pas très clair ce qu'ils veulent faire. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que ça va être un boîtier déporté. Qui dit déporté, dit onde. Alors comme déjà le Linky, il est accusé d'émettre des ondes, ils ont été obligés de spécifier des choses. Alors il est écrit dans ce projet d'arrêté que l'émetteur devra intégrer, je cite, les fonctions qui permettent à un équipement aval de minimiser la fréquence des transmissions radio nécessaires à la production de ses services et l'impact de ces transmissions sur la ressource radio disponible pour les autres applications. Bon, ça ne doit pas prendre trop de fréquences et ça ne doit pas être trop dangereux pour la santé. On sait que les études qui sont sorties pour l'instant disent que il n'y a pas trop de problèmes d'exposition sur la santé, d'exposition à partir du Linky, ce qui était quand même condamné par, enfin, décrit par pas mal de gens et du coup attaqué. Bon, on attend d'avoir aussi des vraies études scientifiques plus sérieuses, même si à mon avis le plus gros problème du compteur Linky, c'est plutôt l'espionnage que ça fait chez nous plutôt que le problème sur la santé, hein, puisque bon, de toute façon on est tellement envahi d'ondes en ce moment que si vous regardez les wifi que vous avez chez vous, vous verrez qu'il y en a quand même beaucoup et que le pauvre compteur Linky, ça va pas faire grand chose au milieu de tout ça. Donc voilà. Mais ce qu'on apprend, c'est que les pros auront droit à ce truc gratuit. Pour les autres, faudra payer. Alors qu'avant, c'était disponible directement sur le compteur. C'était assez pratique. Et en fait, ça nous rappelle que les évolutions technologiques correspondent souvent, en tout cas en ce moment, à des régressions de la part de notre liberté. Hein, avant, on n'avait pas besoin de payer un truc supplémentaire, détaché, qui nous permettait d'avoir la consommation, on l'avait directement, et ça nous suffisait, c'était assez facile de faire des courbes, des calculs, si on avait envie de faire des courbes et des calculs, ou de voir où on en était. Les systèmes étaient simples, et donc facilement analysables. Aujourd'hui, dans les outils modernes, tout est caché, tout est sécurisé, tout est fermé, et nous n'avons accès à rien. Et pour avoir accès aux informations, eh ben souvent, ça demande soit de la technologie, donc des coûts supplémentaires, soit des abonnements avec des coûts supplémentaires, soit des compétences que l'on n'a pas, donc on n'a pas accès à ces technologies. Alors là, c'était à travers Linky, ce qui est mis en place pour les pauvres, mais ça existe aussi dans d'autres domaines. Alors on a vu l'obligation de la maîtrise de l'outil informatique, aujourd'hui c'est généralisé. Si vous êtes chercheur d'emploi, vous ne pouvez plus présenter un CV écrit à la main. C'est plus possible, il faut qu'il soit informatisé, votre CV, même taper à la machine, il faut qu'il soit informatisé. Si vous allez vous inscrire à Radio France, non, à Pôle emploi, je sais pas pourquoi j'ai Radio France en tête, Pôle emploi, c'est pareil, ça se fait essentiellement par une connexion Internet. C'est devenu très compliqué, les démarches administratives aujourd'hui sont accessibles sur le net et de moins en moins accessibles sans ordinateur. Et le développement de l'informatique qui a souvent été perçu, notamment à travers les réseaux Internet et autres, comme un outil de liberté, hein, d'accès à plus d'informations, plus de choses, en fait, c'est un outil d'accès à la liberté à condition qu'on ait les connaissances techniques. D'utilisation de l'informatique, d'utilisation des réseaux, etc. Si on les a pas, et ben c'est l'inverse. C'est une perte de liberté. Puisque ben, ce qu'on pouvait faire avant sans l'informatique n'est plus possible sans l'informatique et on ne peut plus faire. Tout ça pour vous dire que si vous avez cette idée-là, vous pouvez... Alors j'ai vu aujourd'hui une belle photo d'un pôle emploi sur lequel avait un beau tag écrit « Moi, Daniel Black ». Alors « Moi, Daniel Black », c'est le dernier film de Ken Loach qui raconte cette histoire-là de ce pré-retraité, on va dire, de quelqu'un qui approche la soixantaine, qui a un problème de santé et qui est obligé pour avoir droit de renégocier une allocation en tant que personne ne pouvant plus travailler parce qu'il a des problèmes de cœur, est obligé de s'inscrire au Pôle emploi anglais et il se retrouve, ce papy ou pré-papy, voilà, il a 59, on va dire il est proche de la soixantaine, il n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, il ne sait pas faire, il ne sait rien faire, il est complètement déconnecté et il est exclu du monde par son incompétence, parce que effectivement, on l'a jamais formé là-dessus. Et le film, qui raconte pas que ça, qui raconte les misères sociales, qui raconte plein d'autres choses, et qui est très touchant, redémontre que effectivement, les évolutions technologiques, c'est souvent des attaques à la liberté pour les personnes qui n'ont pas accès à ces technologies. Et le dernier exemple qu'on peut prendre, ce sera le troisième et le dernier, c'est la perte d'autonomie des utilisateurs aujourd'hui face aux objets modernes. Quand votre frigo, votre réveil tombe en panne, votre ordinateur tombe en panne, vous êtes bien embêté. Vous pouvez plus quasiment réparer. Faire la vidange de votre voiture, c'est plus possible. Il y a quelques années, il suffisait d'avoir quelques connaissances en électricité et en mécanique et tout ou presque pouvait être démonté et tenter d'être réparé. C'est plus possible. Et c'est un vrai choix technologique que ce basculement dans une société ultra technologique et ultra fermée aux technologies. Alors, il y a des résistances qui se mettent en place face à ça. Des formations accessibles gratuitement pour toutes les personnes qui veulent apprendre les choses. On a des install-parties qui ont lieu régulièrement pour apprendre à maîtriser l'outil informatique et particulièrement l'outil informatique libre, pour pas devenir esclave d'une société capitaliste quelconque. Il y a des ateliers d'apprentissage à la réparation des objets qui se créent, parce qu'il y a encore quelques objets techniques qui sont réparables, de moins en moins. Et puis il y a des ateliers vélo qu'on voit apparaître dans les villes où on peut aller apprendre à réparer son propre vélo, parce que le vélo a un avantage sur tous les autres outils technologiques modernes, c'est qu'il est toujours accessible à n'importe quelle personne. On apprend à réparer, c'est très simple un vélo, on apprend la mécanique de base, on apprend, c'est pas très compliqué la mécanique, le parti électrique du vélo c'est pas très compliqué non plus pour allumer les phares. On est capable tous et toutes d'apprendre tout ça et de réparer soi-même les choses, et notamment pour le vélo, et c'est pour ça qu'il y a des ateliers, l'atelier du chat perché notamment, qui est dans le 7e, qu'on salue au passage, et puis il y en a d'autres maintenant dans Lyon. Donc voilà, c'était pour, à partir de cette info sur le Linky, rappeler que les évolutions technologiques ne doivent pas nous échapper et qu'on doit bien se les réapproprier si on veut garder un peu de liberté. Il est 19h56 à la pendule de la plus rebelle des radios, nous avons fini ce Canu Info, nous allons faire quelques petites annonces dans notre petit agenda. Bon, j'en ai deux d'annonces, j'en ai une demain. Jean-Marc Rouillant, alors si vous vous rappelez, Jean-Marc Rouillant, membre d'Action Directe, condamné à la prison en 1989, il a passé plus de 20 ans en tôle, donc un des derniers prisonniers politiques français, issu en tout cas de ces luttes armées des années 70-80, surtout pour Action Directe, qui a écrit beaucoup de livres, très intéressants d'ailleurs souvent, et qui sera dans le cadre du Novembre Libertaire à la Griffe, vendredi à partir de 16h, donc il pourra parler de lui. Alors il a fait parler de lui récemment en disant une énorme connerie, ça arrive aussi, et il va parler de ce qu'il est. Son dernier livre s'appelle « Je regrette », ça sera présenté à la librairie La Griffe, et je crois qu'après il y a une projection d'un film.
Il y a plusieurs films en fait, c'est une soirée film après.
Ouais, après c'est notamment de Jean-Henri Meunier qui s'appelle « Faut savoir se contenter de beaucoup ». Voilà. Donc c'est dans le cadre du Novembre Libertaire 2016. Il y a toutes les infos sur le site internet de Novembre Libertaire ou sur Rebellion. Et puis pour terminer ce Canu Info, dernière annonce en lien avec le Canu Info, puisque des gens qu'on a reçus plusieurs fois,
la Crémette, et qui vont revenir,
qui j'espère vont revenir, la Crémette 69, donc organise samedi une grosse après-midi soirée autour des médias à la MJC du Vieux-Lyon. Donc ça aura lieu à partir de 14h jusqu'à 23h. Alors dans l'ordre, 14h30, 15h30, des vidéos et des lectures pour présenter Acrimed, et puis voilà, pour parler un peu des médias. 15h30, 17h, des ateliers. Donc là, il y en a 4. Il y a une carte blanche donnée au monde diplomatique, un journal qui est quand même à part. Un atelier sur le décryptage d'un journal télévisé. Un atelier qui s'appelle « Les médias sont-ils sexistes ?» pour répondre oui quand même, mais pas Radio Canu. Un atelier « Les médias et la loi travail ». C'est très intéressant aussi. Ensuite, il y a des tables rondes de 17h30 à 19h. La première, c'est « Les journalistes face à la critique ». Et de l'autre côté, « Les médias alternatifs, une alternative aux médias ». Point d'interrogation. Voilà, après il y a une pause apéritive et gustative et on termine la soirée avec des projections, donc 20h15, 23h, notamment Hollande, DSK, etc. De CP Productions, donc une élection présidentielle à l'autre au prisme des médias. C'est le surtitre de ce film réalisé par Vincent Boleno et que projette donc la Crémette 69, donc c'est samedi 5 novembre à partir de 14h à la MJC du Vieux-Lyon. C'est en face de la cathédrale, je crois que c'est une cathédrale, Saint-Jean, hein, sur la grande place là. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Il est 19h59, passé de 50 secondes à la pendule de la plus rebelle des radios. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Canu Info du jeudi.
Évidemment.
Et demain pour le prochain Canu Info à 19h, puisque c'est tous les jours de la semaine, 19h-20h. Je consulte le camarade à côté pour lui demander si c'est prêt. C'est prêt, je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. On n'entend rien, tu sais, camarade. Attention, il va lancer. C'est l'émission en direct de Radio Audio.
Moi j'en profite, je vous dis au revoir.
Bye bye. J'ai toujours rien là dans le son.
Ah, zut alors.
Camarade, nous voilà. Tu as branché ton petit fil noir comme ça ? Ah oui, tu as branché le petit fil noir.
Bon, on vous rappelle sinon qu'il y a les podcasts, qu'il y a le streaming, tout ça. Si vous n'avez pas l'habitude, hein, on ne sait pas, peut-être que vous êtes tombé sur nous par hasard. Hein. Eh ben, vous pouvez aller sur internet et nous retrouver avec toutes nos émissions.
Alors ça va venir dans quelques microsecondes. On parlait du monde moderne. Alors là, j'ai un brouhaha. Quand tu rebranches, je n'ai pas le son qui sort. Diffuser en direct, c'est pas toujours facile, la vie. On va laisser les bandes continues le temps que le camarade dépanne.
Ciao, ciao.